Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, Avons-nous la Bible complète? Je veux traiter seulement un aspect de ce livre tellement important qui résume d'un côté l'histoire du monde et en même temps qui explique le plan de Dieu dans son entièreté. Est-ce que nous avons la Bible complète? Ce qui m'a inspiré la préparation de ce message-là, c'est une étude biblique qui a été donnée il y a 2 semaines, le mercredi soir, par Internet, là, par le directeur canadien de l'Église, M. Stuart Vahovitch. Le titre de son message était la même chose, « Avons-nous la Bible complète? » Alors, j'ai pris une certaine partie de son message et en même temps, j'ai fait une recherche pour compléter le sermon dans une certaine direction précise, parce que j'avais eu des questions sur ce point-là, justement. Et je pense que c'est important qu'on clarifie ça et qu'on voit, bibliquement parlant, que la Bible est un livre que Dieu a conservé jusqu'à nos jours de façon vraiment complète. Et ça peut se prouver. Allez à Ésaïe chapitre 8, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 8, un bon endroit pour commencer notre étude aujourd'hui. Ésaïe chapitre 8, et nous allons lire le verset 20. Il est écrit... À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La deuxième partie de ce verset-là ici n'est pas rendue tout à fait exactement dans la Bible Louis II. Le vrai sens de la deuxième partie, c'est s'il ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a point en eux de lumière. Alors, Dieu dit ici, c'est la loi et le témoignage qui comptent. La loi de Dieu et le témoignage de Dieu qui est sa parole, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il dit, si les gens ne s'appuient pas là-dessus pour parler, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Alors, on commence l'explication du sermon aujourd'hui sur ce verset-là où il est clairement dit que c'est la Bible qui est le fondement de la vérité. Il dit, à la loi et au témoignage. Tout ce que nous devons croire, il est dans la Bible. Bien sûr, il faut le prouver. La Bible dit prouver toute chose. Alors, quand Dieu nous appelle, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie dans la Bible ce qui nous est enseigné pour voir si c'est vraiment là. Et si c'est vraiment là, ce qu'on nous dit de faire, à ce moment-là, on a le choix ou de le faire ou de ne pas le faire. Si on choisit de le faire, on devient des enfants potentiels de Dieu. Et Dieu nous donne davantage de son esprit pour qu'on puisse grandir dans la compréhension et dans la façon d'observer ses lois. Maintenant, le témoignage dont il est question ici, c'est qui a donné ce témoignage-là? Un témoignage, c'est l'affirmation de quelque chose. Et le Christ a rendu témoignage de la vérité, c'est lui qui est le témoin véritable et fidèle. C'est lui qui a donné la vérité de Dieu. Le Christ est le porte-parole du gouverneur de l'univers. Alors, celui qui a donné ce témoignage-là, celui qui a donné la vérité divine par la Bible, par l'Ancien Testament et par le Nouveau Testament, qui a été inspiré par Dieu, par le Christ, c'est le Christ qui a donné ce témoignage-là. C'est le porte-parole du gouverneur de l'univers. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3. On va le voir encore plus précisément. C'est lui, le Christ, qui est décrit comme étant le témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui donne un témoignage. C'est quelqu'un qui présente la vérité, qui présente l'information nécessaire. C'est lui qui est le témoin fidèle. Pourquoi il est le témoin fidèle? Parce qu'il est le porte-parole du gouverneur de l'univers et qu'il a rendu un témoignage qui est exact à ce que lui avait été demandé de donner. Il est le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire vrai. Et c'est pour ça qu'il a dit à son père, « Ta parole est la vérité. » Quand il l'a prié, le soir où il a été arrêté, il a dit, « Ta parole est la vérité. » Et c'est lui qui était venu en tant que ce témoin, pour témoigner de la vérité que le Père lui avait demandé de rendre disponible à l'humanité. Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » C'est le Christ qui parle ici et il se définit lui-même comme étant ce témoin qui est fidèle et qui est véritable, qui dit seulement la vérité. Le principe de la création de Dieu, c'est-à-dire celui qui est à la source de tout ce que Dieu a créé. Parce qu'on sait par la Bible que Dieu a créé toutes choses par le Christ et pour le Christ. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit ici qu'il est le principe ou le commencement de toute la création. Alors, voyez-vous que le Christ a l'autorité et il a le pouvoir de préserver entière et intacte son témoignage, sa parole écrite, la Bible complète. Il a le pouvoir de le faire. Et il l'a fait. On va le voir au cours du message. Et dans ce sens-là, le Christ a fait une promesse qui est absolument certaine. On la trouve dans Marc 13, verset 31, où il est dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Mes paroles ne passeront pas. Donc, le témoignage que Jésus a apporté, il a affirmé à plusieurs endroits que ce témoignage-là ne disparaîtrait pas, qu'il resterait intact. C'est ça. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui dans la Bible. Allez à 1 Pierre chapitre 1 maintenant. 1 Pierre chapitre 1. Et nous allons lire le verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Le même principe encore. Pierre confirme ce que le Christ a dit, que sa parole ne serait jamais détruite, qu'elle serait préservée entière. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile, c'est tout le message de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est le message du plan de Dieu. C'est le message du plan de salut de Dieu offert à tous les êtres humains à tour de rôle selon les étapes que Dieu a lui-même fixées. Alors ici, Pierre a écrit plusieurs années après la mort de Jésus. Et Pierre ici confirme, dans le fond, la promesse de Jésus par rapport au fait que sa parole allait être préservée éternellement. Que sa parole serait conservée intacte et complète. Intacte et complète. Ça veut dire ceci, par contre, parce que Dieu a travaillé avec des êtres humains, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il y ait des gens qui soient désignés, inspirés, appointés par Dieu pour rassembler les divers livres de la Bible, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, sont composés de plusieurs livres différents. Mais il a fallu que quelqu'un les mette ensemble et qu'il soit inspiré de garder ceux-là et non pas d'autres livres qui venaient de l'extérieur. OK? Pour être sûr que la parole soit gardée vraie, intacte, toujours, et qu'elle sera comme ça éternellement. Les apôtres, d'ailleurs, ont mis en garde à plusieurs reprises les disciples à ce moment-là et nous aujourd'hui contre les écrits frauduleux, contre les fausses doctrines qui étaient déjà enseignées à l'époque et qui sont enseignées encore aujourd'hui. Il a dit, il faut que vous fassiez la différence entre les fausses doctrines, ce qui est faux et ce qui est vrai. La vraie parole de Dieu et la fausse parole de Dieu. Parce qu'il y en a une fausse parole de Dieu qui n'est pas de Dieu, dans le fond. Elle vient du petit Dieu de ce siècle. Mais à leur époque, déjà au début du Nouveau Testament, à leur époque déjà, et encore aujourd'hui, c'est plus facile, avec Internet, avec les divers médias, il y avait de faux évangiles, il y avait des choses erronées qui circulaient, de nature à tromper les gens, à les amener sur des fausses pistes, puis à les éloigner de la vérité. Et c'est ce que l'adversaire veut qu'il soit fait. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. C'est important qu'on comprenne ces choses-là, puis en même temps, ça nous fait voir la beauté de la parole de Dieu et comment Dieu l'a préservée. Comment, en la vérifiant, on peut être certain que c'est la parole entière de Dieu et qu'on peut s'y fier totalement. On pourrait prendre une autre voie puis vous expliquer pourquoi on peut se fier à la Bible, parce que les prophéties qui sont écrites dans la Bible, en grande partie, se sont réalisées jusqu'à maintenant. Ça peut se prouver historiquement par les événements. Et on voit les événements se dérouler devant nous maintenant. C'est encore des prophéties annoncées d'avance qui se réalisent. C'est une autre façon de prouver la Bible. Mais là, je vous parle maintenant de voir la Bible comme étant complète. On peut se fier parce que c'est complet. Dieu s'est assuré que ce soit complet. Ça a été mis en cause, ça a été menacé par des faux écrits puis des faux enseignements. dès l'époque des apôtres originaux, et encore plus aujourd'hui, surtout, comme je mentionne, avec les médias, avec Internet et tout ça, vous avez toute la panoplie de faussetés possibles et imaginables. Et quand quelqu'un se met à aller chercher là-dessus, vous pouvez être certain qu'il y a toutes les chances de se perdre complètement. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens qui viennent à l'Église, prenez le temps à prouver comme il faut ce que la Bible dit, soyez-en certains, puis restez là-dessus une fois que vous l'avez vraiment prouvé, par vous-même et pour vous-même. Mais après que vous avez prouvé ça, vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs pour voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu penser de ça. Une fois que vous l'avez prouvé, vous l'avez prouvé. Si vous ne l'avez pas prouvé, vous ne l'avez pas prouvé. Prenez le temps. Mais une fois que vous l'avez prouvé, n'allez plus chercher ailleurs. C'est comme quelqu'un qui se marie, qui a trouvé la femme de sa vie, après qu'il a pris, il a fait son choix, qu'il vit avec elle, il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs. C'est le même principe, là. L'image est peut-être forte, mais c'est exactement la même chose. Et ça devient en même temps un adultère spirituel, une fois que vous avez connu la vérité de Dieu et que vous allez folâtrer avec des faussetés autour en essayant de chercher autre chose qui serait peut-être plus plaisant à l'oreille ou qui vous permettrait de faire des choses que la loi de Dieu ne vous permet pas de faire. C'est ça la différence. Alors, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2 ici. Déjà, à l'époque des apôtres originaux, il y avait des écrits frauduleux qui circulaient. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Paul qui parle, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, voyez-vous, par ça, on voit qu'il y avait déjà des lettres qui circulaient à ce moment-là qui annonçaient des choses contraires à ce que les apôtres enseignaient et ce qui venait d'être enseigné par le Christ, déjà à ce moment-là. Alors, c'est pas surprenant qu'à notre époque, ce soit encore plus fort avec les moyens techniques et technologiques qu'on a maintenant. Jérémie 23. Jérémie 23, on voit, c'est pas le seul endroit, mais on voit à cet endroit-là que le même avertissement avait été donné dans l'Ancien Testament par Dieu concernant les faussetés circulant, concernant le vrai Dieu, son vrai plan, ses vraies fêtes, ses lois, et ainsi de suite. Jérémie 23, versets 31 et 32. Regardez ce que Dieu dit. « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole, qui font croire, autrement dit, que ce qu'eux pensent, c'est ce que moi je pense. » Que ce qu'eux disent, c'est ce que moi je dis. C'est ce que Dieu est en train d'exprimer ici. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Alors, voyez-vous, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'était déjà commencé à l'époque et ça continue. Et ça va aller en augmentant d'ici la fin. Parce qu'on sait par les prophéties, j'entrerai pas là-dedans, mais on sait qu'à la toute fin, il y aura un très grand faux prophète qui va faire même des prodiges extraordinaires jusqu'à faire descendre du feu du ciel pour comme prouver qu'il est le représentant de Dieu. Alors que c'est un faux prophète. Il faudra savoir d'avance que ces choses-là vont venir. Il faudra être proche de Dieu pour distinguer, parce qu'il y aura un grand mouvement de foule internationale qui va admirer ce grand faux prophète et qui va dire, voilà le représentant de Dieu. On voit les signes. Mais ce sont de faux signes, comme Dieu mentionne ici. Ce sera donc en augmentation jusqu'à la fin. Alors, malgré tous les faux enseignements dans le monde et dans l'histoire, malgré toutes les tentatives de diluer, de changer, d'altérer la parole, Dieu, le Tout-Puissant, a fait en sorte que sa parole entière et complète soit préservée. Comme on a vu tantôt, c'est une promesse qu'il a faite. Et ça a été préservé. Maintenant, je vais plus loin. Je veux préciser les choses. La Bible dit comment ça a été préservé. Et c'est bon qu'on prenne le temps de le voir. Et à qui Dieu a-t-il confié la responsabilité, par exemple, de préserver l'Ancien Testament? Commençons par l'Ancien Testament. À qui est-ce que Dieu a confié la responsabilité de préserver l'Ancien Testament? Moïse avait reçu de Dieu une partie de l'Ancien Testament. On le voit dans Acte 7, versets 37 et 38. Ça vaut la peine. Allons-y. Acte 7, versets 37 et 38. Moïse, qui était un prophète de Dieu, avait reçu les paroles de Dieu et avait la responsabilité de transmettre intégralement les mêmes paroles de Dieu. Acte 7, versets 37 et 38. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, en parlant de Moïse, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, Moïse était monté sur la montagne du Sinaï, rencontrer l'envoyé du gouverneur de l'univers, rencontrer le Christ qui était venu lui parler directement, et avec nos pères, il reçut, en parlant de Moïse, il reçut des oracles vivants pour nous les donner. Les oracles, c'est les paroles de Dieu. C'est le témoignage qu'on a vu tantôt dans Ésaïe 8, verset 20. C'est le témoignage. Les oracles de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors Moïse, sur le mont Sinaï, a reçu directement de Dieu les paroles de Dieu. Pourquoi? Pour nous les donner, donc pour les transmettre après lui. Alors c'est comme ça que c'est commencé. Et le reste est venu ensuite par les prophètes, sous l'inspiration divine. Là, vous avez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Daniel, Ésaïe, Jérémie et les autres. Je ne donne pas tous les noms, mais ensuite, c'est venu par les prophètes que Dieu a inspiré d'écrire les livres que nous avons. Et Dieu s'est assuré que ces livres-là se rendraient jusqu'à nous, parce qu'ils vont durer également éternellement, parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Maintenant, à qui est-ce que Dieu, plus précisément, a confié de mettre par écrit ces choses-là et de conserver ces écrits-là? Romains chapitre 3 nous le dit clairement. Romains chapitre 3. Quand on met ensemble les versets qui expliquent ça, l'image devient claire. Dieu a confié à des gens précis le fait de décrire les paroles des prophètes et de Moïse pour que ça parvienne jusqu'à nous. Dieu a confié ça aux Juifs. Romains 3, versets 1 et 2. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Et regardez le verset 2. Il est grand de toute manière, tout d'abord, en ce que les oracles ou les paroles de Dieu leur ont été confiées. Les paroles de Dieu ont été confiées aux Juifs pour qu'ils les conservent. Et c'est pour ça qu'on voit historiquement qu'ils les ont mis par écrit au cours de l'histoire, les écrits de l'Ancien Testament, pour que ça parvienne jusqu'à nous. Et ce n'est pas tous les Juifs qui ont fait ça. C'est une certaine catégorie de Juifs qu'on appelle les scribes. Scribes, il veut dire les écrivains. OK? Ce sont les scribes qui avaient la charge d'écrire les textes. C'était des érudits. On les appelait aussi des docteurs de la loi, parce qu'ils connaissaient très bien la loi. Ils la copiaient à journée longue. Ils faisaient des copies. Il n'y avait pas l'imprimerie à l'époque. Donc, tout se faisait à la main. Et tout devait être calculé très proche pour qu'il n'y ait aucune erreur. Alors, les scribes avaient donc la responsabilité, c'était des Juifs érudits, docteurs de la loi, qui étaient chargés de transcrire la loi et les textes. Dans l'histoire, on les trouve, ces scribes-là, sous deux noms, selon les époques. D'abord, il y a les scribes qu'on appelle talmudistes. Les scribes talmudistes, T-A-L-M-U-D-I-S-T-E. Eux ont fait ça à la première époque qu'on va voir. Et après ça, vous avez eu les scribes qu'on appelle massorètes. Vous pouvez noter ça et faire vos recherches là-dessus complétées, vous allez aimer. Massorètes, M-A-S-S-O-R-E-T-E-S. Et les premiers dans l'histoire qui ont retranscrit tout ce texte-là d'Ancien Testament, on les appelle les scribes talmudistes, et après, ça a été les scribes massorètes. Maintenant, je vais vous citer deux livres qui parlent de ça, qui vont vous donner le contexte du travail de ces scribes-là et comment ils fonctionnaient. D'abord, un livre qui s'appelle « Hebrew Text of the Old Testament » ou « Le texte hébreu de l'Ancien Testament » et c'est écrit par un monsieur Davidson. Je vous cite. C'était une discipline qui était très, très sévère pour les transcripteurs qui ont travaillé, eux, là je parle des scribes talmudistes dans la première période, ils ont travaillé à partir de l'an 70 de notre ère à aller jusque vers l'an 500. C'est le premier groupe de scribes, là, les scribes talmudistes. Alors, je vous cite maintenant Davidson ici. Et je vous dis comment il travaillait. Un rouleau de synagogue doit être écrit sur la peau d'un animal pur. Ça commençait comme ça. Parce que c'était écrit sur des peaux d'animaux à ce moment-là. Il n'y avait pas de papier. C'est pour ça qu'il roulait ça, il appelait ça des rouleaux, les rouleaux de la loi. Alors, un rouleau de synagogue doit être écrit sur la peau d'animaux purs. La longueur de chaque colonne doit être comprise entre 48 et 80 lignes. La longueur de chaque colonne. Tout est calculé, vous allez voir. La largeur doit être de 30 caractères. La largeur, 30 caractères. Aucun mot, ni aucune lettre, pas même un iode, le plus petit signe, ne peuvent être écrits de mémoire. C'est pas de mémoire qu'on l'écrit. Entre chaque consonne, il faut laisser l'espace d'un cheveu. Entre chaque consonne, l'espace d'un cheveu, avant de retranscrire la lettre suivante, ou d'un fil. Et entre deux livres, OK, il faut trois lignes en blanc. Ça séparait les livres à ce moment-là. En outre, le copiste doit porter son habillement juif complet et se laver tout le corps avant de commencer son travail chaque jour. Et il faisait ça à cœur de jour et il faisait ça année après année pour refaire des copies des textes sacrés. OK? Et même les mots étaient comptés, je n'entrerai pas là-dedans, je vous en ai déjà parlé, les mots étaient comptés, et ils comptaient dans un livre, par exemple, quelle lettre devait arriver au milieu de tous les mots qu'il y avait dans ce livre-là. Et c'était vérifié dans un sens et dans l'autre, il y a beaucoup de revérifications qui se faisaient pour vous donner une idée à quel point Dieu a inspiré ces gens-là pour conserver son texte. « Ma parole ne périra jamais », c'est ce qui est marqué. Formidable. Maintenant, la transcription se faisait donc lettre par lettre, se faisait mot par mot, phrase par phrase. Ça demandait beaucoup d'attention et ça, c'était leur tradition, là, talmudiste, ceux qui faisaient ce travail-là. Maintenant, on arrive à la deuxième période, ceux qu'on appelle les scribes massorètes. Ça, c'est de l'an 500 à peu près à l'an 916 de notre ère. Ça, c'est le deuxième groupe de scribes qui ont retranscrit les textes. Alors, les massorètes, en hébreu, vient du mot Masorah, M-A-S-O-R-A-H, M-A-S-O-R-A-H, et ça signifie remettre une chose aux mains d'un autre. Remettre une chose aux mains d'un autre. Mais remettre la chose dans son état parfait où elle était au début. Il ne fallait pas qu'il y ait de différence, autrement dit, dans la copie qu'il donnait de celle qu'il avait reçue. Masorah veut dire remettre à quelqu'un d'autre, mais dans le même état. Et eux ont sauvegardé donc le texte de l'an 500 à peu près après Jésus-Christ jusqu'à 916. Ces érudits dévoués fixés à Tibériade, établirent les textes massorétiques utilisés de nos jours et qui sont notamment à la base de la version anglaise de 1611 de l'Ancien Testament. Alors tout ça se tient là. On voit l'origine des choses. Vous pourrez avec ces noms-là, faire vos propres recherches puis vérifier ces choses-là. La Massor est appelée, regardez, c'est vraiment bien, la Massor est appelée la clôture des Écritures. OK? La clôture des Écritures, c'est pour protéger les Écritures, pour empêcher qu'il y ait autre chose qui rentre dans la vérité biblique pour l'altérer. Alors, c'est vraiment puissant quand on regarde ces choses-là, puis on peut voir en arrière de ça la puissance du Dieu éternel, tout-puissant, qui fait arriver les choses comme lui dit. Alors, la Massor est appelée la clôture des Écritures parce qu'elle enclôt et fixe tous les mots et toutes les lettres à leur place. Il n'y a rien qui bouge. Elle recense le nombre de fois que les différentes lettres apparaissent dans la Bible. C'est compté même le nombre de fois que les lettres apparaissent dans la Bible. Le nombre de mots et le mot du milieu de chaque passage. Le nombre de versets et les versets milieux, etc., dans le but délibéré de prévenir la perte ou le déplacement, fût-ce d'une simple lettre ou d'un simple mot. Et ça, je vous cite la Companion Bible de Bollinger dans ces recherches-là. Il y a d'autres recherches qui confirment ça. Mais ça vous montre à quel point ça a été préservé sérieusement. Et ça nous donne en même temps l'assurance que Dieu a mis en place un système pour s'assurer que la parole se rende jusqu'à nous. Dans toute l'histoire, si vous vérifiez ça, il n'y a aucun autre livre, il n'y a aucun autre document historique écrit qui a été préservé aussi précisément avec autant de soins méticuleux. Il n'y a aucun autre document. Puis pourtant, la Bible date de loin, là, quand on commence avec l'Ancien Testament jusqu'aux apôtres originaux. Le Christ, qui a veillé à la préservation complète de sa parole, a lui-même aussi confirmé l'authenticité du travail. Matthieu, chapitre 23. Le Christ a vraiment veillé à préserver sa parole par les scribes. Et regardez ce qu'il dit de la qualité de leur travail de scribes, et non pas d'exemple. Matthieu 23, versets 1 à 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Mais oui, ils ont l'autorité que Moïse avait de transmettre les textes. On a vu tantôt que Moïse avait reçu les textes et il avait la responsabilité de les transmettre. Les scribes avaient la responsabilité de transmettre les textes que Moïse a écrits et les textes des prophètes. OK? Alors, il dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc, voyez-vous, ce qu'ils avaient écrit était juste. Les scribes écrivaient ces choses-là. Ils disaient ce qu'ils avaient écrit. Alors, ici, il mentionne, il dit, faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce que là, la sauce se gâtait. Dans le sens que ces scribes-là, même s'ils étaient fidèles dans la façon de transcrire les lois, ils ne l'observaient pas, ou ils ajoutaient d'autres choses selon leur volonté dans les enseignements qu'ils donnaient. Voyez-vous la différence, là? Mais à travers ça, Dieu a quand même gardé son texte. Alors, ce que le Christ dit ici, c'est que les scribes ont fait un bon travail d'écrire les lois, de les transcrire, les textes de l'Ancien Testament. Mais ils ne sont pas un exemple à suivre, absolument pas. N'agissent pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Aussi simple que ça. Allez dans Luc 24 maintenant. Luc chapitre 24. C'est fascinant quand on étudie la Bible sous cet angle-là. Moi, j'ai aimé beaucoup préparer le sermon d'aujourd'hui. Jésus a précisé les trois sections des livres de l'Ancien Testament qu'il a fait préserver. On le voit dans Luc 24, versets 44 et 45. Ici, c'est le Christ qui parle. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, le Christ leur dit, « Écoutez, tout ce qui a été écrit de moi dans l'Ancien Testament, dans les trois sections de l'Ancien Testament, il fallait que ça s'accomplisse. » Et là, vous avez vu s'accomplir certaines choses parce que je suis venu pour donner ma vie, et ainsi de suite. Alors, il dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est lui qui avait inspiré ce qui est écrit de lui dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Maintenant, précision. Et ceux qui avaient la chance de prendre des notes, prenez les notes là-dessus, vous ferez la vérification, ça renforce la foi et ça montre la puissance de Dieu. La loi de Moïse, c'est quoi? La loi de Moïse, c'est les cinq premiers livres de la Bible. C'est simplement ça. La loi de Moïse, c'est les cinq premiers livres de la Bible. C'est ce qu'on appelle la Torah. T-O-R-A-H. La Torah. Les cinq premiers livres de la Bible. On voit souvent cette expression-là, la loi de Moïse. Ben oui, c'est quoi? C'est parce que c'est Dieu qui a donné à Moïse la loi et Moïse l'a transférée. Mais on appelle ça la loi de Moïse, mais dans le fond, c'est la loi de Dieu, mais qui a été transmise par Moïse. Alors donc, la première des trois sections que le Christ a données pour l'Ancien Testament, il dit, c'est la loi de Moïse, les cinq premiers livres, qui parlent de lui aussi. Deuxièmement, les prophètes. Qu'est-ce que c'est les prophètes? C'est les livres prophétiques de la Bible. Tous les livres prophétiques de la Bible. Par exemple, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 12 petits prophètes mineurs, et ainsi de suite. Ça, c'est les livres, les prophétiques, c'est les prophètes. Et en hébreu, c'est le Nevim, N-E-V-I-M, N-E-V-I-M, le Nevim, cette partie-là. Première partie, les cinq livre premier, la loi de Moïse, c'est la Torah. Les prophètes ensuite, les livres prophétiques, on l'appelle le Névim. Et après, la troisième section que le Christ mentionne, c'est les psaumes ou les écrits. Mais ça ne comprend pas juste le livre des psaumes, là. Ça comprend les psaumes, les proverbes, Ruth, Esther, les lamentations, Ecclésiaste, et ainsi de suite. Et cette troisième section-là s'appelle, en hébreu, Ketivim. K-E-T-I-V-I-M. Ketivim. K-E-T-I-V-I-M. Et ces trois sections-là, la Torah, le Névim et le Ketivim, forment le Tanakh. T-A-N-A-K-H. T-A-N-A-K-H. Ça, c'est la Bible hébraïque complète. La Bible hébraïque complète. L'Ancien Testament complet. Avec ces trois sections-là que le Christ lui-même a authentifiées. Il dit, voici les trois sections de l'Ancien Testament qui parlent de moi. Et il les a désignées. J'entrerai pas dans les détails. Si des fois vous voulez avoir d'autres informations sur les livres, quels livres font partie de quelle section, je pourrais vous en donner personnellement. Maintenant, je fais ici un aparté important parce qu'il y a des livres que certaines personnes pensent qui sont importants, mais qui ne font pas partie de la Bible. Et il y a beaucoup de confusion qui a été amenée au cours de l'histoire à cause de ces livres-là. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Parce que ça sort sur Internet, ça sort un peu partout, ou quelqu'un a entendu parler d'un livre spécial qui a peut-être une révélation autre, là. Et là, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, ils veulent essayer de trouver autre chose, mais c'est un sentier qui amène complètement dans l'erreur et complètement à côté de la vérité. Ce sont les livres apocryphes, les livres qu'on appelle apocryphes. Je vais vous donner des précisions là-dessus. Ils ne font pas partie de la Bible. Ils ne sont pas mentionnés dans la Bible, ils ne font pas partie de la Bible, et ce ne sont pas des livres inspirés. Je vais vous en nommer quelques-uns tout à l'heure. Il y a une différence entre les versions catholiques de la Bible et les versions protestantes. Là, il y a une différence entre les deux, en ce qui concerne les livres apocryphes qui ont été ajoutés au cours de l'histoire. C'est que les versions catholiques de la Bible, parce qu'il y en a plus qu'une, il y a la Bible de Jérusalem, mais il y en a d'autres aussi, là. Les versions catholiques de la Bible utilisent les livres apocryphes. Ils les utilisent. Et c'est arrivé, ça, sous l'influence d'Augustin, ou celui qu'on appelle Saint-Augustin. C'est lui qui a mis tout son poids pour que ces livres-là soient acceptés par l'Église catholique. Au Concile de Carthage, en 397 de notre ère. OK? Et c'est curieux parce que c'était exactement 34 ans après que l'Église catholique eut rejeté les mêmes livres avant, dans un autre concile. Ils avaient refusé d'accepter les livres apocryphes. Les sept livres apocryphes à ce moment-là ont été rejetés par Rome 34 ans auparavant, en 363, au Concile de Laodicée. Alors, voyez-vous, ils avaient rejeté ces livres-là et sous la pression d'Augustin, ils les ont intégrés à leur Bible ensuite et les considèrent comme ayant une importance. Maintenant, je reviens à ça. C'est que les versions catholiques de la Bible contiennent plus souvent qu'autrement, l'ensemble ou plusieurs des livres apocryphes. Tandis que les Bibles d'origine protestante ne les ont pas. Ils n'ont jamais voulu les accepter. Avec raison, d'ailleurs. Avec raison, d'ailleurs. Je vais vous citer ici un petit article écrit par M. Dibard Lapartient, notre évangéliste qui nous a fait tellement de bien au cours de l'histoire. C'est un article qui est paru dans La Pure Vérité de avril 1994, pardon. L'article s'appelle « La Bible en langue française ». Il dit ceci. « L'une des plus grandes différences entre les versions catholiques et protestantes de la Bible, sans entrer dans les détails, réside dans l'emploi de ce qu'on appelle les textes apocryphes. Apocryphe vient du grec « apokryphos » qui signifie « caché, douteux, incertain ». Donc, c'est des textes cachés, douteux, incertains. C'est pour ça qu'ils ont le nom « apocryphe ». OK? Il s'agit là de quelques livres qui furent ajoutés à l'Ancien Testament. Ils ont été ajoutés à l'Ancien Testament par les hommes, OK, dans leur Bible. Ces livres ne sont reconnus comme étant bibliquement authentiques que par la traduction grecque, appelée la version de Septante, 250 à 130 avant Jésus-Christ, et plus tard par le Concile de Trente en 1545, de 1545 à 1563. Ces livres particuliers sont considérés comme apocryphes, c'est-à-dire non inspirés par Dieu, à la fois par les Juifs ne les reconnaissent pas, et par les protestants. Les synagogues ne tenaient pas ces livres comme étant inspirés. Ceux-ci ne font donc pas partie de ce qu'on appelle le canon juif, c'est-à-dire l'ensemble des livres considérés comme inspirés. C'est ça le canon, c'est l'ensemble des livres considérés comme inspirés. Jésus lui-même ne les cita jamais. Ça donne une petite idée aussi, hein? Si le Christ ne les a jamais cités alors qu'il cite plein d'autres livres de l'Ancien Testament lorsqu'il fait ses enseignements. Jésus lui-même ne les cita point lors de son ministère terrestre et les apôtres ne les ont jamais cités non plus. Alors ça, ça donne de l'étoffe pour qu'on comprenne ce qu'il en est. Les apocryphes ne se distinguent pas par leur valeur spirituelle, donc ils n'ont pas vraiment de valeur spirituelle. Parfois même, ils expriment des idées qui sont contradictoires avec le canon hébreu de la Bible. Parfois, certains peuvent avoir une certaine valeur historique, comme 1 Maccabée et 2 Maccabée, si je me rappelle bien. Ces livres-là ont une certaine valeur historique par rapport aux événements qui se sont produits. Maintenant, pour votre information, je vous donne ici quelques livres apocryphes. Vous en avez déjà entendu parler. Le livre de Tobie. On ne trouve pas ça dans les vraies Écritures. Ça, c'est dans les apocryphes, les livres qui ont été ajoutés là, par la suite. Le livre de Judith. La sagesse de Salomon. Je vous donne les titres de certains livres apocryphes. L'Ecclésiastique. Pas l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique. Ou le livre de Siracide. Le livre de Baruch. Maccabée 1, Maccabée 2, Esdras 1, Esdras 2. Vous avez ensuite la lettre de Jérémie, Belle et le dragon. Vous avez une série comme ça. Il y a des articles aussi qui ont été ajoutés et tout ça. Alors, je reviens à ça. Ces livres-là, apocryphes, n'ont jamais été cités dans les Écritures. Ils n'ont jamais été cités dans les Écritures. Et ils ont été insérés dans la Bible par Rome entre 300 à 500 ans après Jésus-Christ. Ils ont été intégrés par la suite. Vous avez l'historien juif. Flavius Joseph, lui, a vécu au premier siècle de notre ère, au moment de l'Église originale. Il n'était pas membre d'Église, c'est un historien. D'ailleurs, c'est un général d'armée aussi, et c'est un sacrificateur. Et il écrit ceci concernant les textes juifs. C'est intéressant, parce que c'est fermé, c'est verrouillé par Dieu. Il dit ceci dans Against Appion, dans son livre Against Appion, « Car nous n'avons pas une multitude innombrable de livres. » Il parle des Juifs, là. « Car nous n'avons pas une multitude innombrable de livres chez nous, en désaccord et se contradisant l'un l'autre, comme chez les Grecs. Mais nous avons seulement 22 livres. » Donc, l'Ancien Testament, c'est seulement 22 livres que nous considérons à juste titre être divins. OK? Vraiment, vraiment intéressant. En fait, c'est 22 rouleaux avec des textes, mais il y a certains livres qui ont été regroupés ensemble. Comme je parlais tantôt, les petits prophètes, les 12 petits prophètes qui sont considérés comme un livre, et ainsi de suite. Là. C'est pour ça que ça fait un total de 22 rouleaux comme tel. Bon, je continue. Le même témoignage entier de l'Ancien Testament a été perpétué, il a été enseigné à l'époque du Nouveau Testament. Oui, parce que c'est la même vérité fondamentale, c'est le même témoignage. Sauf certaines lois qui ont été abandonnées parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être, comme la loi des sacrifices, vu que le sacrifice parfait était venu, il n'y avait plus raison d'avoir des sacrifices. Les lois cérémoniales et les lois du temple physique, il n'y avait plus raison d'être parce que c'est maintenant le temple spirituel, le corps de Christ. Alors, moins ces choses-là, la même vérité biblique a continué d'être enseignée. C'est ce que Paul déclare. Regardez Acte 26, Acte chapitre 26. En même temps, je vous donne un travail additionnel, là, parce que vous allez pouvoir reprendre ces choses-là que je vous dis, puis aller revérifier les choses, les prouver par vous-même et être encouragé par la parole puissante de Dieu. Acte 26, verset 22. Paul déclare ici, « Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. » Paul dit, « Je suis encore vivant. » Il a été menacé plusieurs fois. « Rendant témoignage. » Voyez-vous, il a attesté de la vérité, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Voyez-vous, Paul dit, J'ai enseigné la même chose qui est écrite dans l'Ancien Testament. Ça a été mon travail. Dieu m'a donné la force de le faire. Il précise encore, allez une page avant, acte 24, verset 14. Acte 24, verset 14. Ici, Paul, devant le gouverneur Félix, plaide sa cause. Il dit, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. » Parce que l'Église de Dieu, à son début, était considérée comme une secte, parce qu'elle ne faisait pas partie de la grande religion juive traditionnelle. C'était différent. Alors, il dit, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » On revient encore à ça. Paul affirme qu'il enseigne la même chose que l'Ancien Testament enseignait. Et plus loin, comme pour intégrer tout ça, là, vous avez l'apôtre Pierre qui inclut les écrits de Paul à l'écriture du Nouveau Testament. Quoique les gens en disent. Parce que, comme Pierre dit, Paul a une façon d'écrire qui est difficile à comprendre parfois et qui amène à la confusion si on ne prend pas le temps de vraiment regarder le contexte puis de voir les autres versets ailleurs qui expliquent ces choses-là. Mais Paul est un serviteur de Dieu qui a écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament et Pierre confirme que ses écrits font partie de la Bible complète. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, regardez le verset 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Voyez-vous, toutes les lettres que Paul a écrites, Pierre dit, ils sont corrects, toutes les lettres que Paul a écrites. Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'était pas nouveau, c'était difficile à comprendre à l'époque à cause de son style, mais ça n'en est pas moins la vérité. Alors, verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors ici, il parle de Paul et il dit toutes les lettres de Paul, donc, font partie des Écritures. Mais comme j'ai mentionné, il y avait déjà de faux enseignants, il y avait déjà de faux évangiles qui circulaient, de faux écrits. Et c'est pour ça qu'on voit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2, Paul dit, « Ne vous laissez pas séduire par une lettre qui semblerait venir de nous. » Vous irez voir vous-même ce passage-là, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3, et surtout le verset 2, où Paul dit très, très clairement, laissez-vous pas séduire ou laissez-vous pas tromper par les lettres qui circulent comme si elles semblaient venir de nous. Il y avait peut-être des gens même qui écrivaient en signant Paul, en signant le nom de Paul sur certains documents. Mais il dit, laissez-vous pas tromper par ça. Soyez certains de rester sur la vérité. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens chapitre 11. On va lire le verset 3 et 4 ici. Paul parle aux Corinthiens. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Donc, je vous mentionne tout ça pour qu'on voit que dès ce moment-là, il y avait de faux évangiles qui circulaient et Paul les met en garde contre ça. Il dit, appuyez-vous sur les vrais textes et sur ce que vous avez reçu comme enseignement, parce qu'il y a déjà de faux enseignements qui circulent. Alors, voyez-vous, malgré toutes ces attaques contre la vérité unique, parce que la vérité, elle peut pas être deux, elle peut pas être trois. Il y a une seule vérité. Malgré toutes ces attaques contre la vérité unique, Dieu a utilisé son gouvernement, a utilisé certains de ses ministres précis pour préserver sa parole complète, qui va durer éternellement, comme il a dit. À la toute fin de l'époque des apôtres originaux, Dieu a inspiré et béni deux de ses apôtres originaux, Pierre et Jean, on va le voir, pour qu'ils complètent et qu'ils préservent la Bible complète, la Bible totale, dans son entièreté. Allez dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Ça, c'est la lettre que Pierre a écrite juste avant d'être pris par les Romains et d'être exécuté. On le voit par le texte, il savait qu'il allait mourir dans peu de temps après. Alors, il s'est assuré à ce moment-là de dire à l'Église que l'Église aurait ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faudrait pour rester dans la vérité complète. Regardez. 2 Pierre 1, verset 13. Alors, comme je vous dis, c'est avant son exécution par les Romains. Et là, Pierre ici, qu'est-ce qu'il fait? Il précise son rôle. Il précise la responsabilité que Dieu lui a donnée. Verset 13. « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans son corps physique. » Parce qu'il sait, il savait à ce moment-là qu'il allait mourir peu de temps après. « Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement. » Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Et parfois, Dieu fait connaître à ceux qu'il va ramener vers lui, dont il va ramener l'Esprit vers lui, il leur fait connaître que c'est proche. Et regardez verset 15, qu'est-ce qu'il précise ici? « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, quand je ne serai plus là, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses que je vous ai enseignées et que j'ai apprises. » Maintenant, je précise une chose. La seule façon pour Pierre de s'assurer de conserver en permanence les choses que lui-même et les autres apôtres avaient enseignées, c'était de regrouper les textes qui étaient officiellement déclarés comme Écriture sainte et qui étaient reconnus comme inspirés. Et ça a été son travail. Ça n'a pas été la dernière étape, mais ça a été son travail. Et regardez, on voit beaucoup de détails dans ce simple passage ici. Il y a des études à faire pour prouver encore plus à fond ce que je vous dis. Mais là, Pierre, il dit, je vais m'assurer qu'après mon départ, vous puissiez avoir les documents nécessaires pour que ce que je vous ai enseigné et ce que les autres vous ont enseigné perdure. C'est la base de ce qu'on connaît, c'est l'assurance que la Bible, elle est complète. La Bible, avec les livres originaux et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, elle est complète. C'est important qu'on le sache. Regardez maintenant le verset 16. Il vient dire au verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, après ma mort, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc, je vais m'assurer que vous ayez les documents qu'il faut. Je vais les rassembler et je vais m'organiser pour qu'ils puissent perdurer. » Et regardez le verset 16 maintenant. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ils ont annoncé le retour de Christ, ils ont annoncé la puissance du Christ, celui qui a le témoignage, le témoin fidèle et véritable. Il dit, c'est pas des fables qu'on vous a données, c'est pas des histoires, c'est pas des légendes qu'on vous a données. Mais nous, vous avons fait connaître la puissance de Jésus-Christ et son avènement. Avez-vous remarqué, au verset précédent, il disait, j'aurai soin après mon départ de m'assurer que vous ayez ce qu'il faut pour avoir des documents écrits pour prouver l'authenticité des textes et tout ça. Mais ici, il dit, nous. Alors, il vient de changer. Et ça a un sens profond, vous allez voir. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Qui est ce « nous » ici? Ce sont les trois qui ont assisté à la transfiguration. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour de la transfiguration? Le Christ a désigné trois de ses apôtres spéciaux. Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les a amenés et là, il s'est montré dans sa gloire, dans une vision qu'il leur a donnée, la transfiguration. Vous pourrez aller voir dans Matthieu 17, on voit la description de ça et on voit les trois qui ont été témoins de cette transfiguration-là. Alors, le « nous » ici, ce sont ces trois-là qui ont assisté à la transfiguration du Christ. C'est pas pour rien qu'il dit, juste avant, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand ils ont eu la vision à la transfiguration, ils ont vu le Christ comme venant dans sa gloire. C'est ça qu'il vient de dire. On a vu l'avènement du Christ en vision. Il dit ici au verset 16, là, on était là, nous. Comprenez-vous? Tout ça se tient. C'est extrêmement important. Et il va plus loin. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ils avaient vu le Christ physique avant. Il ne parle pas de sa majesté à ce moment-là, mais quand ils l'ont vu dans la vision, lors de la transfiguration, ils ont vu sa majesté. Comment il allait venir dans la gloire en tant qu'être glorieux. C'est ça qu'il est en train de leur expliquer. Il dit, j'ai pas été seul à voir ça. Nous étions quelques-uns, nous étions trois, en fait. Notez bien que Pierre a écrit ce livre-là, là, 2 Pierre, des dizaines d'années plus tard que la transfiguration. Jacques était déjà mort à ce moment-là. Vous regarderez dans Actes 12, versets 1 à 3. Actes 12, versets 1 à 3, vous pourrez vérifier. Jacques était déjà mort, il avait été tué. Donc, des trois, à ce moment-là, il ne restait que Pierre et Jean. Alors, le « nous » dont il parle ici, c'est Pierre, lui-même et Jean. OK? Je vais plus loin, parce qu'eux autres ont eu la responsabilité, par le Christ, de conserver les textes, la Bible entière. Et c'est pour ça que lui et Jean étaient les seuls qui détenaient, dans le fond, la parole prophétique certaine. Il parle de parole prophétique certaine, ensuite, dans le même contexte. En d'autres termes, Pierre indiquait à ses lecteurs que lui et Jean étaient les seules personnes désignées par le Christ pour regrouper un compte-rendu faisant autorité, pouvant guider les communautés chrétiennes des générations à venir, longtemps après la mort des premiers disciples. Tout ça se tient, exactement. Et au moment de la mort de Pierre, Pierre avait compilé 22 livres. Au moment où Pierre est mort, il avait compilé 22 livres. Pourquoi je peux dire ça avec certitude? Parce que l'apôtre Jean n'avait pas encore écrit ses livres. OK? Alors, il y avait 22 livres à ce moment-là dans le Nouveau Testament. Ceux de Jean n'étaient pas encore écrits. Par après, l'apôtre Jean a écrit 5 livres. 1, l'Évangile de Jean. 2, les 3 lettres ou les 3 épîtres de Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. OK? Et après ça, l'Apocalypse de Jean. Alors, vous avez l'Évangile de Jean, les 3 épîtres et l'Apocalypse, ce qui fait 5 livres. OK? Bon, continuons. Donc, ça fait un total pour le Nouveau Testament de 27 livres. Les 22 livres que Pierre avait compilés et les 5 livres ensuite que l'apôtre Jean a ajoutés. 22 livres de l'Ancien Testament, vous vous rappelez? 22 rouleaux et 27 livres du Nouveau Testament. Faites le calcul. On arrive à combien de livres dans l'ensemble de la Bible? 49. 49. Si vous divisez 49 par 7, vous arrivez à 7. 49, c'est 7 fois 7. Le 7, c'est le nombre divin de l'achèvement, de la complétion, de ce qui est complet. OK? 7 fois 7, 49. Là, vous avez le sceau de Dieu pour montrer que c'est sa parole complète, Ancien Testament et Nouveau Testament. La Bible avait alors été complétée. La Bible avait alors été complétée. Les prophètes, y compris Moïse, avaient produit l'Ancien Testament, les 22 rouleaux, et les premiers apôtres avaient rédigé et compilé le Nouveau Testament, les 27 autres livres, pour faire un total de 49. Et à ce moment-là, la Bible était complétée. Et elle est devenue le solide fondement de l'Église établie par le Christ. C'est le fondement. Ta parole est la vérité. C'est le fondement. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. On peut commencer à lire au verset 19. Il parle des gens de l'Église de l'époque et de nous aujourd'hui, le petit troupeau, les quelques-uns que Dieu a appelés. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Okay? Regardez maintenant le verset 20 pour vous mentionner que la Bible a été complétée et que c'est le solide fondement. Ancien Testament, Nouveau Testament. Il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Donc, prophètes, Ancien Testament, apôtres, Nouveau Testament. Vous les appelez, vous avez été fondés maintenant sur la Bible qui est complète, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire de tout cet édifice. Fantastique. Tout se tient parfaitement dans la loi de Dieu et dans le plan de Dieu. Maintenant, je vous cite en terminant une partie d'un article écrit par M. John Ogwin, l'origine du Nouveau Testament. Le Christ s'était assuré que l'Église qu'il avait établie ne serait pas abandonnée à la tradition ou à des enseignements imprécis en tant que base d'instruction. Il nous a laissé un compte-rendu écrit de son message, des actions et de l'enseignement de ses apôtres. Ce message fut préservé fidèlement sur des manuscrits copiés au sein du monde grec pendant des siècles. Après la chute de Constantinople, sous les Turcs, en 1453, les érudits grecs se sauvèrent en Europe de l'Ouest, particulièrement en Suisse, emmenant avec eux une manne de manuscrits anciens. Ces manuscrits constituèrent la base de ce que l'on appelle le Textus Receptus, ou le texte reçu, si vous voulez. C'est un nom donné aux versions grecques du Nouveau Testament qui a été traduit en allemand sous Luther, en anglais, par Tyndale et par la version du roi Jacques. Et c'est ce qui est considéré comme les textes authentiques. C'est pour ça qu'on dit textus receptus, les textes reçus, les textes acceptés comme étant inspirés, duquel des versions anglaises King James et New King James ont été traduites. Le Christ vivant a guidé et orchestré les événements pour garantir un témoignage, c'est lui le témoin fidèle, un témoignage fidèle de la bonne nouvelle qu'il était venu proclamer il y a presque 2000 ans. Tout ça se tient, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que quand vous allez à la fin de la Bible, c'est pas le seul endroit où c'est écrit, mais à la toute fin de la Bible, c'est écrit, on va y aller, Apocalypse 22. On va prendre le temps d'y aller, Apocalypse chapitre 22. C'est pas sans raison que le Christ a inspiré l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse de terminer toute la Bible avec ces versets-là ici. Versets 18 et 19. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » On n'a pas le droit d'ajouter rien ni de retrancher rien. « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. » Si sa part est retranchée de l'arbre de vie, il n'y a pas de vie. « Retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Alors, il termine la Bible en disant ça. Ça laisse sous-entendre qu'il y aurait eu et qu'il y aura beaucoup de tentatives pour inclure d'autres choses dans la Bible et de faire en sorte que la Bible ne soit pas complète, qu'elle ne soit pas préservée ou qu'elle soit altérée. Mais Dieu a promis que sa Bible continuerait éternellement, que sa parole durerait éternellement, et il a le pouvoir de le faire arriver. Ce qu'il dit ici à la fin d'Apocalypse, c'est pas pour lui, parce que lui a le pouvoir de le faire arriver. Mais c'est pour avertir les humains, ne touchez pas à ça. Respectez ce qu'il y a là. Lui avait la puissance pour réaliser sa promesse, à l'effet que la Bible serait gardée complète. Qu'est-ce qu'il a dit? Mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Et ses paroles ne passent pas. Il l'a gardée complète. Et il a dit aussi, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, comme c'est marqué dans Matthieu 5, verset 18. Donc, c'était encore une promesse de dire, il n'y aura rien de changé. L'ensemble du document sera conservé malgré les attaques autour et tous les subterfuges de l'adversaire. Tout ça pour vous dire, j'espère que ça vous encourage, parce que moi, ça m'a grandement encouragé de faire la recherche. Tout ça pour vous dire que nous avons la Bible complète.